Au quotidien avec Denis Martin Chabot.
Bonjour, 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 bonjour.
Et pourquoi quatre fois bonjour?
J'en sais rien, toi?
Ben, j'en sais rien non plus.
Ah, ça va vraiment mal aujourd'hui. Ben non, on sait pourquoi, parce que c'est quatre fois mieux qu'une seule fois. Bonjour, Samuel Badel.
Bonjour.
Alors, c'est la dernière émission que j'anime cet été parce que Hélène revient la semaine prochaine. Et en cette journée, aujourd'hui, du 21 août, plusieurs choses à noter. Donc, nos chroniqueurs du matin, très tôt, ont pris congé aujourd'hui, donc ils seront absents. Mais on n'est pas en reste. Hein. Nous recevrons Philippe Cyr, qui est co-directeur général et directeur artistique du Théâtre Prospero, parce qu'hier, j'assistais au lancement de la programmation du théâtre. Alors, il vient en studio nous en parler. On va aussi revenir sur Accoucher dehors. La semaine dernière, j'avais reçu Jeannot Bournival qui fait ce spectacle, qui parle d'itinérance, qui est donc présenté ce week-end à Trois-Rivières. Et on a manqué de temps pendant l'entrevue, puis j'ai trop parlé de Jeannot pour ne pas assez parler du spectacle. On va faire le contraire aujourd'hui. Et puis, c'est la chronique Parasport avec Dominique Tremblay. Et on va aussi parler d'une nouvelle série télé sur Uni et TV5 qui s'appelle Papa. Et on va en parler avec le comédien principal et aussi celui qui écrit cette série, Kevin Sauvageau. À la météo aujourd'hui, c'est chaud, ça serait chaud, c'est toujours une belle journée, mais bon, on parle de ressenti autour de 27 degrés là, au Québec. Vraiment pas de quoi comparer avec ceux qu'on a ressentis il y a quelques semaines. Par contre, il y a de la pluie dans l'est de la province. Et si on va au Nouveau-Brunswick, en Nouvelle-Écosse, à l'île du Prince-Édouard, c'est du soleil. On a des avis de qualité d'air pour la région d'Halifax, entre autres. Parce que ben il y a du brouillard, il y a aussi les feux de forêt et aussi un avis là, donc de tempête, notamment sur les côtes dans les provinces atlantiques. Mais quand même, l'un dans l'autre, ça demeure autour de 22-23 degrés et on ne prévoit pas de pluie dans ces régions. En Ontario, Toronto, en fait, dans le sud de l'Ontario, on parle de maximum autour de 24, des ressentis de 29. Le ciel sera partiellement nuageux avec possibilité d'averses isolées en fin de journée. Thunder Bay, c'est un temps ensoleillé avec quelques passages nuageux et c'est autour de 31 comme ressenti. On a un ciel variable dans la région de Sudbury, 26 degrés ressenti. Ben, on reste au même. En région d'Ottawa, par contre, il y a un ressenti de 30 degrés aujourd'hui. C'est ensoleillé. Dans les provinces de l'Ouest, il y a un avis de pluie abondante et d'orage dans le nord du Manitoba et de la Saskatchewan. On a des maximums de 25 degrés ressentis 31. Et en Saskatchewan, on est autour de 22 à 25 degrés. Temps ensoleillé à Calgary, il va faire 20. Mais par contre, à Edmonton, ben, le temps sera nuageux avec risque d'averse en après-midi. On parle de ressenti. Vous ne faites pas de ressenti de température de 19 degrés. Maximum 21 à Vancouver. Ciel sera ensoleillé, quelques passages nuageux. Et temps ensoleillé à l'intérieur de la province, notamment à Kelowna. Et je tente de vous parler de l'éphéméride d'aujourd'hui. 21 août, 2004. On est tellement habitué des fois que moi, je trouve qu'il y a une déconnexion parfois entre ma bouche et mon cerveau. Alors, je recommence. 21 août 1904, naissait le célèbre pianiste et chef d'orchestre de jazz états-unien, Count Basie. Et en 1964, ben, on va souhaiter un bon anniversaire à Martin Drainville, acteur québécois. Et 1967, on souhaite un bon anniversaire aussi à Carrie Ann Moss, qu'on a connue mondialement dans le rôle de Trinité dans la saga Matrix. Et n'oublions pas aussi un des plus grands sprinteurs de tous les temps, le Jamaïcain Usain Bolt, hein, qui est né en 86. Du côté des décès, c'est une figure majeure de la Révolution russe qui nous a quittés le 21 août 1940, Léon Trotsky, hein, qui a été assassiné à Mexico. Et puis un peu plus récemment, 2017, on perdait un de nos plus grands écrivains et romanciers, le poète et dramaturge Régent Ducharme. Et passons maintenant aux événements marquants de l'histoire du Québec et du Canada. Ben, le 21 août 1953, une grève éclatait dans les mines d'or de Rouyn-Noranda, un conflit de travail important qui a mis en lumière les conditions de vie des travailleurs.
Sur les plaines d'Abraham, un peu de joie, une explosion des armées.
Bon, à Alors, encore une fois, je veux m'excuser auprès de nos auditeurs, auditrices millénarios. Bien oui, en 1974, la super francophète qui s'ouvrait à Québec, événement musical et culturel qui a réuni des artistes francophones du monde entier sur les plaines d'Abraham. Et puis, à l'échelle internationale, le 21 août 1968, les troupes du pacte de Varsovie envahissaient la Tchécoslovaquie pour mettre fin aux printemps de Prague, période de libération politique, un événement qui a marqué la guerre froide. Et puis... Bon, OK. Là, je sais que faut être un petit peu plus vieux pour savoir d'où ça vient. Mais ça a été quand même repris un peu partout. Ça, c'est le thème musical d'Hawaii 5-0, Hawaii 5-0, une célèbre série policière. Pourquoi? Ben, c'est parce que le 21 août 1959, les États-Unis accueillaient officiellement le 50e État, donc, de leur union, Hawaii. Aujourd'hui, c'est jeudi et j'aime bien jeudi musique nostalgique, donc jeudi nostalgie.
C'est quoi ta toune qui me revient dans les oreilles tout le temps? C'est moi, j'ai plus le même temps comme avant. Plus le temps comme avant pour remplir mes oreilles. Dis-moi, c'est quoi ta toune qui me revient comme le soleil tout le temps? Tu viens, c'est jamais pour longtemps.
On écoutait la chanson Dixie par Harmonium.
Oui, ça, c'est une chanson qui a vu le jour bien avant toi, mon cher Samuel.
J'en doute pas une seconde.
Alors, c'est le temps de faire cette revue de presse, encore une fois, assistée de l'intelligence artificielle Gemini. Air Canada a annoncé une nouvelle politique de remboursement pour les voyageurs dont les vols ont été annulés à la suite du récent lock-out des employés des agents de bord. La compagnie s'engage maintenant à rembourser non seulement le coût initial du billet, mais aussi les frais supplémentaires engagés par les passagers pour se procurer des vols de remplacement sur d'autres transporteurs. Cette mesure, qui fait suite à de nombreuses plaintes de consommateurs, vise à compenser les passagers pour les prix souvent plus élevés qu'ils ont dû payer en urgence pour trouver un moyen de transport alternatif. Les voyageurs concernés devront soumettre leur demande de remboursement et fournir les reçus des billets de remplacement pour être admissibles. La compagnie n'a pas encore précisé la date limite pour soumettre ces demandes. Cette initiative s'inscrit dans un effort plus large pour Air Canada là, de regagner la confiance de sa clientèle après les perturbations importantes causées par ce conflit de travail visant donc ses agentes de bord. Et puis, une autre nouvelle qui peut faire susciter beaucoup de réactions. La Société des alcools du Québec anticipe devoir détruire des milliers de produits états-uniens d'une valeur de 300 000 $ qui atteindront bientôt leur date de durabilité minimale ou de péremption cet automne, a appris Radio-Canada. La SAQ, qui a déjà payé tous ces alcools, juste là malheureux, mais c'est le gouvernement Legault qui décide. Les produits bientôt expirés sont des vins rosés, des vignées, des prêts à boire, des crèmes, certaines bières et des liqueurs qui ne sont pas conçus pour une garde prolongée. Ils font partie des 27 millions de dollars d'alcool états-unis rejetés des tablettes le 4 mars et qui sont entreposés depuis. Le gouvernement du Québec, comme d'autres provinces, avait exigé l'arrêt des ventes en réponse à l'imposition de douane, de droits de douane par le président états-unien Donald Trump. Le blocage routier érigé par des membres de la Première Nation Mamo de la Haute-Mauricie se poursuit, transformant en un désaccord de longue date en un conflit ouvert et tendu. La barricade située sur la route forestière 130 qui mène à plusieurs concessions de coupes a été mise en place pour protester contre les coupes forestières massives que des entreprises, dont la compagnie Bois et Forêts du Québec, ont l'intention de commencer dans la région. Selon un porte-parole de la Première Nation Mamo, le Conseil tribal a tenté à plusieurs reprises de négocier avec le ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs et les compagnies concernées, mais sans succès. La Première Nation affirme que ses activités de coupe empiètent sur son territoire ancestral et menacent des lieux de chasse et de pêche qui sont essentiels à leur mode de vie. Ils exigent un moratoire immédiat sur toutes les activités de coupe et l'établissement d'une table de négociation pour discuter de l'utilisation future des terres. Pour l'instant, la Société de développement et d'aménagement de la Haute-Mauricie, qui gère la route, a appelé au calme. Elle a confirmé que les pourparlers sont au point mort et que le barrage cause des perturbations importantes pour le transport de bois et d'accès aux forêts, entraînant des pertes économiques pour les entreprises de la région. Les autorités policières surveillent la situation de près, mais n'ont pas encore eu à intervenir. Le conflit pourrait s'intensifier si aucune solution n'est trouvée rapidement. La Caisse de dépôt et de placement du Québec, l'un des plus grands investisseurs institutionnels au monde, cherche à se départir de ses parts dans deux fonds d'investissement liés à la famille états-unienne Bronfman. Ces fonds sont très actifs, on parle de 200 millions de dollars en tout, en Israël, et la Caisse de dépôt aurait pris cette décision pour des raisons d'ordre stratégique pour se diversifier de ses actifs. Des négociations sont en cours pour finaliser la transaction. Donc, on parle de 200 millions que posséderait la Caisse de dépôt dans ses investissements.
Partir plus des poules à la campagne. amis sont disparus, puis moi non plus je me reconnais plus. On est 10 000 à rue Saint-Paul, avec le blues de la métropole. Je sais plus quoi dire à mes amis, non. Ils sont rendus ou ben trop gelés ou ben trop chauds. Il y en a deux, trois qui sont rendus un peu trop beaux. Même Jésus-Christ a embarqué mon ancienne blonde dans son troupeau. Tous mes amis sont disparus, puis moi non plus je me reconnais plus. On est 10 000 à rue Saint-Paul, avec le blues de la métropole.
Le blues de la métropole par Beau Dommage.
Je dis nostalgie. Et puis là, ben, on s'en va vers les actualités, ce qu'on appelle, nous, les para-actualités. Toujours assistés, donc, de l'intelligence artificielle Gemini. On doit vous le dire par transparence. Et puis, je vous assure que je passe après sur ce qu'elle fait parce qu'il y a parfois des erreurs. Alors, on corrige, mais c'est ça. Une nouvelle ressource importante pour les adultes en situation de handicap voit le jour à Châteauguay. Le manoir Horizon, situé sur l'île Saint-Bernard, vient d'être officiellement inauguré et s'apprête à accueillir ses premiers locataires. L'établissement, qui est le troisième point de service du centre multifonctionnel Horizon, aura pour mission d'offrir un hébergement et du répit aux adultes en situation de handicap et à leurs familles. Cette initiative s'inscrit dans la continuité de la mission de l'ancienne congrégation des Sœurs Grises. Le gouvernement du Québec a annoncé un soutien financier récurrent de 1,2 million de dollars par an, spécifiquement pour la rémunération du personnel. 9 locataires pourront y vivre de façon permanente et une chambre alternative sera disponible pour des séjours de répit d'une semaine. Et l'établissement aussi pourra héberger 9 locataires et de 4 à 6 familles qui se partageront cette chambre alternative pour des répits d'une semaine. Donc, ça sortait du soleil de Châteauguay. Et puis, le Nord-Côtier maintenant, bonne nouvelle pour les organisateurs de la Côte-Nord, les organismes de la Côte-Nord qui œuvrent auprès des aînés. Le programme fédéral Nouveaux Horizons pour les aînés est de retour avec un appel à proposition pour l'année 2025-2026. Ce programme vise à financer des projets communautaires favorisant l'inclusion sociale et brise l'isolement des personnes âgées. Alors, on comprend que ce programme étant fédéral, il est disponible partout dans toutes les régions et non seulement sur la Côte-Nord. Hein? Alors, la députée Marilène Gilles a rappelé que les organismes à but non lucratif et les municipalités sont invités à déposer leurs projets. Les initiatives qui sont admissibles doivent promouvoir le bénévolat, encourager l'entraide intergénérationnelle ou valoriser la participation active des aînés au sein de leur communauté. Les projets acceptés pourront obtenir une subvention allant jusqu'à 25 000 $. L'appel de proposition est en cours et prendra fin le 17 septembre prochain. Une tragédie, donc, du Journal de Montréal, une tragédie a frappé une famille de la Montérégie après qu'un accident de course de rue eût coûté la vie à un homme et grièvement blessé son jumeau. Donc, on parle des jumeaux Sébastien et Alexandre Duhamel, tous deux âgés de 35 ans et tous deux atteints d'une légère déficience intellectuelle. Ils se trouvaient sur le site de Saner à Saint-Pie, alors que lorsque l'accident est survenu vendredi soir. Les jumeaux étaient sur place en tant que spectateurs, mais le conducteur, Sébastien, se serait retrouvé par inadvertance sur la piste avec une Hyundai Elantra non modifiée. Le véhicule a fait une sortie de piste après le départ, percutant un obstacle. Sébastien est malheureusement décédé, tandis qu'Alexandre, qui était passager, a subi des blessures graves au cou et au dos, mais sa vie n'est pas en danger. La Sûreté du Québec mène une enquête, mais écarte pour le moment la thèse d'un acte criminel. Sport adapté en Chaudière-Appalaches, ça vient de la Voix du Sud. La mission d'une femme d'affaires de Chaudière-Appalaches vient de faire du sport adapté une option accessible à tous et à tout le monde, en fait, j'aimerais dire. Le centre adapté, dirigé par Kathleen Côté, se donne comme objectif de briser les barrières et d'offrir des activités sportives aux personnes vivant avec un handicap. Le centre propose une vaste gamme de sports tels que le para-hockey, le curling en fauteuil roulant et même l'haltérophilie, adaptée avec des entraîneurs certifiés. Cette initiative vise à répondre aux besoins de plus en plus de plus de 130 000 personnes en situation de handicap en Chaudière-Appalaches pour qui l'accès à des activités sportives est souvent limité. Kathleen Côté soutient l'importance du sport pour la réhabilitation, mais aussi pour le bien-être physique et mental. Le centre est ouvert à tout le monde et l'organisme travaille activement pour créer un environnement inclusif et accueillant pour ses membres.
Cet été, je ferai un jardin. Si tu veux rester avec moi encore quelques mois, il sera petit. C'est certain, j'en prendrai bien soin. J'en prendrai bien soin qui soit aussi beau que toi. Si tu veux attendre avec moi que les oiseaux reviennent, si tu peux souffrir ces semaines de silence et de froid, j'ai déjà dessiné pour toi un jardin au fond de la cour, à l'image de notre amour, quand tu y crois. Cet été, je ferai un jardin, si tu veux rester avec moi encore quelques mois, il sera petit. C'est certain, j'en prendrai bien soin. J'en prendrai bien soin pour qu'il soit aussi beau que toi. Les légumes et les fruits, avec la foi des tout petits, le soleil de 5 heures fera renaître nos ardeurs. Tu te souviens de nos étés, si tu voulais encore rester jusqu'aux chaleurs. Cet été, je ferai un jardin. Si tu veux rester avec moi encore quelques mois, sera petit. C'est certain, j'en prendrai bien soin, j'en prendrai bien soin, pour qu'il soit aussi beau que toi. Cet été, je ferai un jardin. Cet été,
on écoutait Clémence Desrochers, Je ferai un jardin.
Ouais, on est toujours dans le jeudi nostalgie hein, de ces belles chansons qui ont bercé l'enfance de certains d'entre nous. Et puis, bon, je vais arrêter de me plaindre que Samuel est beaucoup plus jeune que moi. Je pense que je pourrais être son grand-père. C'est extraordinaire. Ah oui. Ben oui.
Peut-être pas grand-père, quand même.
Mais au moins son père. Ouais, ben, ouais peut-être. D'accord. Alors, toujours quelques infos que j'ai glanées grâce à l'intelligence artificielle. Je le répète à chaque fois pour que vous soyez au courant qu'on utilise ça et qu'on essaie de le faire de la meilleure façon possible. Ça économise beaucoup de mon temps. Je vous dis que ça m'aide beaucoup dans le travail, dans la préparation de cette émission. Alors, guerre au Moyen-Orient, la progression du Tsahal, ça c'est l'armée israélienne, le Tsahal, qui a annoncé une progression significative vers l'objectif de conquérir Gaza, la ville de Gaza, le principal bastion du Hamas. Les combats sont intenses et les forces israéliennes affirment avoir pris le contrôle de points stratégiques à l'entrée de la ville. Sur le plan diplomatique, l'ambassadeur états-unien a émis des vives critiques envers les pays qui envisagent de reconnaître un État palestinien, affirmant que cela ne ferait que renforcer la position du Hamas. Et puis, des sénateurs états-uniens demandent l'accès à Gaza. Alors, aux États-Unis, un groupe de sénateurs mené par le républicain Marco Rubio a envoyé une lettre officielle au secrétaire d'État réclamant une pression accrue sur Israël pour permettre à la presse internationale d'accéder à la bande de Gaza. Ils estiment que la libre circulation des journalistes est essentielle pour assurer la transparence des opérations militaires et pour informer la population mondiale de la réalité du conflit. Cette initiative a d'ailleurs été publiquement appuyée par le président Donald Trump. Petit temps pour parler un peu de météo. Alors, au Québec, hein, ça va être du soleil presque partout, sauf dans l'est de la province où il y a de la pluie qui est annoncée. Puis on est dans des humidex plus endurable que les dernières fois. Alors, on est autour de 27 à 30 degrés. Même chose en Ontario. C'est du soleil partout dans les provinces atlantiques. Faites attention, il y a des avis d'ondes de tempête sur les côtes. Dans l'ouest, des veilles d'orages dans le nord de Nouvelle-Écosse, pardon, du Manitoba, de la Saskatchewan. Et puis, c'est du temps quand même plus tempéré. Après la pause, on reçoit Philippe Cyr du Théâtre Prospero. À tout de suite.
Vous écoutez Au quotidien avec Denis Martin Chabot.
Viens voir les comédiens, voir les musiciens, voir les magiciens qui arrivent. Viens voir les comédiens, voir les musiciens, voir les magiciens qui arrivent. Les comédiens ont installé leur tréteau, ils ont dressé leur estrade étendue des calicots. Les comédiens ont parcouru les faubourgs, ils ont donné la parade à grand renfort de tambour. Devant l'église, une roulotte peinte en vert, avec les chaises d'un théâtre à ciel ouvert. Et derrière eux, comme un cortège en folie, ils drainent tout le pays, les comédiens. Viens voir les comédiens, voir les musiciens, voir les magiciens qui arrivent. Bien voir les comédiens, voir les musiciens, voir les magiciens qui arrivent. Si vous voulez voir confondus les coquins dans une histoire un peu triste où tout s'arrange à la fin, si vous aimez voir trembler les amoureux, vous lamentez sur Baptiste pour rire avec les heureux. Poussez la toile et entrez donc vous installer, sous les étoiles le rideau va se lever. Quand les trois coups retentiront dans la nuit, ils vont renaître à la vie, les comédiens. Viens voir les comédiens, voir les musiciens, voir les magiciens qui arrivent. Bien voir les comédiens, voir les musiciens, voir les magiciens qui arrivent. Les comédiens ont démonté leur tréteau, ils ont monté leur estrade et plié les calicots. Ils laisseront au fond des cœurs de chacun un peu de la sérénade et du bonheur d'Arlequin. Demain matin, quand le soleil va se lever, ils seront loin et nous croirons avoir rêvé. Mais pour l'instant, ils traversent dans la nuit
d'autres villages endormis les comédiens. Viens voir les comédiens, les musiciens, les magiciens qui arrivent. Viens voir les comédiens, les musiciens, les magiciens qui arrivent. Viens voir les comédiens, les musiciens, les magiciens qui arrivent. Viens voir les comédiens, voir les musiciens, voir les magiciens qui arrivent.
Alors oui, Charles Aznavour, Viens voir les comédiens. Évidemment, c'est notre jeudi nostalgie, mais j'ai pas choisi cette chanson-là au hasard parce que ça me tentait de voir un comédien, mais surtout un metteur en scène, directeur artistique, Philippe Cyr. Philippe Cyr, parce que hier soir, le Théâtre Prospero a levé le voile sur sa programmation pour la saison 2025-2026. On est vraiment dans une saison audacieuse. On est beaucoup dans le storytelling, la puissance des histoires. Philippe Cyr, donc, d'abord, qui est co-directeur général et directeur artistique, bien, merci d'être avec nous.
Bonjour, bon matin.
Oui, alors, communiqué de presse qui s'ouvre sur une phrase qui semble donner le ton. « Et si demain était la somme de nos histoires? » C'est une vision très forte. Cette philosophie guide-t-elle le choix des œuvres pour la saison à venir?
Bien, je pense que sans la guider nécessairement, elle les rassemble d'une certaine manière. C'est-à-dire qu'on fait des choix comme ça, assez instinctifs, des coups de cœur, des réflexions. On essaie d'amener aussi des visions différentes sur la scène du Prospero, des visions qui s'entrechoquent. Et en réfléchissant à tous ces morceaux-là qu'on avait rassemblés, je me suis dit « Ah, c'est quand même vraiment intéressant ce dont les artistes sont capables de parler à la fois du monde actuel, mais probablement du monde de demain. » Parce que ce qui est intéressant en ce moment, c'est qu'on est vraiment à même de constater des visions de notre actualité, des visions du monde actuel qui s'entrechoquent, qui sont vraiment différentes. Là, je pense à l'actualité, au récit que différents dirigeants nous racontent sur des conflits très importants en ce moment. On pense à Israël versus Gaza, on pense à la Russie et nos amis ukrainiens. Oui. Donc, il y a vraiment des visions du monde qui sont diamétralement opposées. Puis bon, on sait depuis un moment, le storytelling fait partie de tous les enjeux de pouvoir. Alors, je me dis qu'avec le talent que les artistes ont de raconter les choses, ben ils ont un contre-pouvoir. Puis c'est peut-être même un super pouvoir qu'ils ont de nommer les choses. Alors, moi, j'aime bien imaginer que les artistes sont capables de s'approprier un peu la petite et la grande histoire.
Et ça, ça rentre toujours dans la mission du Théâtre Prospero, à te rendre de fusionner le radical et le populaire.
Exactement. Donc, depuis quelques années, on essaie de voir comment on peut essayer de se faire rencontrer ces deux mots-là qui sont aussi à l'opposé, le radical et le populaire. En fait, on essaie de proposer au public des œuvres qui sont, je dirais, parfois complexes, parfois audacieuses, dont la forme peut être surprenante, dont le contenu aussi peut gratter, aller voir dans des zones assez grises de notre existence, et puis, mais de garder une accessibilité pour ces projets-là, d'essayer de les communiquer pour que la porte de notre théâtre soit ouverte le plus possible et puis qu'on puisse venir aimer se faire brasser un peu comme spectateur au Prospero.
Alors, j'étais au lancement hier. Il y a vraiment des œuvres intéressantes à proposer. On va parler des deux premières parce que à un moment donné, on va peut-être se perdre pour les prochaines. Faudra te réinviter.
Ouais.
Mais une qui... C'est vraiment intéressant, ce truc-là. All the Sex I've Ever Had. Parlons de cette pièce qui va être présentée la semaine prochaine.
Exact. La première est le 27. C'est un projet complètement extraordinaire. C'est une recréation, donc avec une équipe montréalaise, des participants montréalais. Ils recréent ce spectacle qui a voyagé à travers le monde. C'est un spectacle de la compagnie Mammalian Diving Reflex. Et ce que vous allez voir sur scène, c'est des personnes âgées de 65 ans et plus qui vont raconter leur vie via le spectre de la sexualité. Donc, à travers les décennies de leur existence, ils vont nous raconter, ni plus ni moins, que leur vie sexuelle. Alors, c'est un très beau projet parce qu'on touche à l'intimité, puis ça apporte une vision assez différente, hein, dans le sens où on a l'impression que nos aînés, ils n'ont rien vaincu, ils sont prudes, ils sont fragiles. Eh bien là, vous allez voir que c'est tout le contraire. On va constater que toutes ces dizaines d'années d'existence et d'expérience, c'est riche, c'est complet, c'est passionnant.
Je sais que vous avez fait un recrutement et ce que j'ai compris, c'est un nombre record pour ce spectacle.
Exact,
parce qu'il
faut comprendre que la compagnie Mammalian Diving Reflex, avec ce projet-là, se promène à travers le monde pour créer des versions locales. Ils ont fait ça en Asie, en Océanie, en Europe, en Amérique. Ils ont fait des dizaines de versions de ce spectacle. Et là, Pour la version montréalaise, le recrutement a été un processus absolument incroyable. Ils ont reçu un nombre record de candidatures. Alors, ça vous donne une idée à quel point les Montréalais ils sont prêts et sont vraiment prêts à livrer, à partager leur vie sexuelle, finalement.
Oui, puis je pense que le nom m'échappe. La personne qui dirige ce projet-là a même dit que ben, Montréal, c'est parce qu'il y a des gens bien sexy.
Oui, Ryan Lewis. Bon, après ça, je le soupçonne de vouloir séduire l'auditoire, mais oui.
Ah oui, ben c'est bien parfait, hein, c'est comme ça que ça fonctionne. Je vais aller à un autre spectacle, parce que ça, c'est encore intéressant. On parle de Jimmy, créature de rêve, de Marie Brassard, mais là, c'est un spectacle qui date de 25 ans, qu'on le présente tel quel.
Bien, c'est la première création de Marie Brassard. C'est le premier spectacle qu'elle a écrit, mis en scène et interprété. Et c'est avec ce spectacle-là qu'elle a parcouru le monde et qui a lancé sa carrière de créatrice. Et là, Marie avait envie de ramener ce spectacle-là, parce qu'elle va fêter les 25 ans de sa compagnie, de le ramener sur scène tel quel, comme une pièce de musée. La réflexion de Marie à travers ça, c'est vraiment très, très beau, parce qu'elle se dit, bien, on regarde des œuvres d'art dans des musées qu'on n'a pas retouchées. Il y a des films qu'on revoit, qu'on n'a pas retouchés, pas retravaillés. C'est le même montage, la même couleur, le même scénario. Pourquoi on ne se pose pas la question sur ce que ça veut dire, ce geste-là, en art vivant? Et puis, c'est très chouette. Ça nous permet de voir, OK, bien, Marie, elle faisait ça. Par exemple, elle fait un travail de micro, de transformation de la voix. Bien, Marie faisait déjà ça il y a 25 ans. Fait que c'est très intéressant d'amener un projet comme ça, tel quel. Je trouve que ça apporte un éclairage sur nos gestes artistiques qu'on pose aujourd'hui ou qu'on invente aujourd'hui.
Alors, ceux qui n'ont pas eu la chance de le voir pourront le voir, finalement,
hein? 25
ans plus tard.
Ou le revoir. Moi, c'est un des spectacles que j'ai vu tout jeune qui m'a complètement chamboulé, qui m'a ouvert plein de possibilités comme créateur dans mon esprit, dans ma tête. Et puis là, je me dis, ah ben ça, c'est tellement une chance de pouvoir revoir ce spectacle-là.
Rapidement, il y a d'autres spectacles.
Oui.
Parmi ceux-ci, je sais que c'est toujours difficile de demander à la personne qui fait une programmation,
exact,
qu'est-ce qu'il faut retenir.
Je les aime tous.
Ah ben ça, c'est clair. Mais parmi ces spectacles-là, est-ce qu'il y a des titres?
Oui, en fait, j'attirerai votre attention sur L'Aventure invisible, qui est aussi une recréation avec une compagnie franco-suédoise. Vraiment, c'est un projet de théâtre documentaire qui est écrit par Marcus Linden et Marianne Segol-Samois. C'est un projet absolument fascinant où des interprètes vont jouer les verbatims d'entrevues menées avec des gens qui ont dû réinventer leur vie.
Oui.
Parmi ces gens-là, on trouve une scientifique, une spécialiste du cerveau qui a fait un AVC et qui a dû reconstruire son identité suite à la perte de sa mémoire. Alors, c'est un trajet, une réflexion absolument fascinante. On a aussi à l'intérieur de ça une personne qui a subi deux greffes de visage et qui maintenant a l'air 25 ans plus jeune que son âge réel. Donc, cette personne-là parle aussi de son expérience avec le public. Et une troisième personne, l'artiste, qui reproduit à l'identique les œuvres de l'artiste queer Claude Cahun. Et là, cette personne a une obsession absolument complète pour cet artiste, puis nous parle de son rapport à l'identité à travers son geste artistique.
Bon, moi, il y a une pièce que je vais absolument voir, qui est L'Arme de Plus, ou L'Arme de Plus. Hein, de...
Oui, on peut le dire avec un accent néerlandais.
Oui, je ne parle pas néerlandais.
Moi non plus. Alors, je vais
m'abstenir. Alors, cette pièce-là termine la saison, mais c'est assez particulier ce qu'on va voir.
Exact. Donc, L'Arme de Pleurs, c'est le nom, c'est un texte de Christian Lapointe, une mise en scène de Christian Lapointe, et c'est son alter ego d'une certaine manière. Donc, L'Arme de Pleurs, ce personnage fictif, c'est une autrice néerlandaise et complètement scandaleuse. Elle a écrit des pièces où elle incite au meurtre de politiciens, elle a écrit des pièces où l'impact de ces pièces-là est tel qu'une des hordes d'adolescents se suicident. Donc, on imagine toute une question, une réflexion, enfin, un questionnement sur la responsabilité de l'artiste, sur la transgression. Et c'est un projet qui est très, très bien écrit. Alors, Christian a été, très, très inspiré par cette réflexion très importante sur la place de l'artiste dans notre société.
En tout cas, il m'a beaucoup ébloui hier lors de son discours.
Ah, il était en feu.
Faut le dire. Pour tous ceux et celles qui veulent voir, connaître cette programmation, il y a toujours le site du Théâtre Prospero.
Absolument.
Et j'aimerais qu'on parle rapidement de cette billetterie solidaire.
Oui, en fait, on poursuit l'aventure de cette billetterie solidaire. Ça marche super bien. Les gens sont heureux, les gens sont nombreux à assister au théâtre. Donc, au Prospero, vous choisissez votre tarif. C'est pas plus compliqué que ça. On a 4 tarifs entre 26 et 54 $ et les gens choisissent sans égard à l'âge.
On demande pas de preuves.
Donc, vraiment, ça permet aux gens beaucoup de flexibilité, une très grande ouverture, puis ça permet aux gens une certaine réflexion sur leur capacité de payer. Donc, il y a des gens qui choisissent un plus bas tarif, mais qui décident d'inviter leurs amis. Il y en a d'autres qui choisissent de payer un tarif plus haut parce qu'ils en ont les moyens. Donc, tout le monde est bienvenu au Prospero.
En tout cas, c'est un grand plaisir, comme d'habitude, de te recevoir, Philippe Cyr, à cette émission. Puis, est-ce qu'on peut juste dire le mot de cabronne pour la saison?
Oui. Merde.
Ah oui, puis je voudrais vous dire, à 93%, excuse-moi, c'est un petit fait qui vient de me revenir en tête, 93% d'occupation l'an dernier.
Exactement.
C'est quand même pas rien pour un théâtre.
C'est pour ça qu'il faut s'abonner rapidement.
Oui, et puis espérons que les subventions seront là au rendez-vous. Merci beaucoup,
absolument.
Philippe.
Merci de votre intérêt.
Merci.
Et on écoutait Lio, les brunes comptent pas pour des prunes.
Ah, une belle chanson pour ce jeudi nostalgie. Lors de son passage à l'émission la semaine dernière, nous avons tellement été emportés par son histoire qu'on a manqué de temps pour parler plus en profondeur de son spectacle. Jeannot Bournival est artiste dont le travail sort des sentiers battus. Musicien, compositeur, directeur musical, il a mis son talent au service d'une cause qui nous touche tous en l'itinérance. Il est idéateur du spectacle Accoucher dehors, initiative qui vise à sensibiliser le public et à redonner dignité à ceux qui vivent dans la marge de la société. Bienvenue à Canalem et au quotidien, Jeannot.
Hey, bonjour Denis Martin, comment vas-tu?
Ça va bien. Je suis désolé, la semaine dernière, ça m'arrive pas souvent, mais j'étais emporté par ton histoire, puis là, je me suis rendu compte qu'on n'a pas vraiment parlé du spectacle. Fait qu'on va y aller aujourd'hui parler du spectacle. Qu'est-ce que t'en penses?
Allons-y, en fait, mais je prends tout le temps sous mon dos. J'étais franchement bavard. Le sujet m'emporte.
Ah non, attends, c'est moi qui anime le show. C'est à moi de gérer ça, ces choses-là. C'est pas la personne invitée de le faire. Mais là, on a du temps aujourd'hui. C'est ma dernière émission, puis j'ai le goût de m'amuser. J'aimerais beaucoup entendre parler de ce show. Alors, pour ceux qui ne sont pas familiers avec le projet, là, c'est quoi l'expérience artistique qu'est ce spectacle?
Ben, l'expérience, c'est de l'inclusion sociale. T'sais, fait que là, on se retrouve... Cette année, l'année dernière, on avait 250 personnes en situation de rue qui étaient dans la salle. Cette année, on est rendu à 500 billets distribués à des organismes pour accompagner des gens en situation de grande vulnérabilité de rue pour être dans la salle. Fait que là, on se retrouve, le grand public, tout le monde, des dirigeants de la société, tout le monde ensemble, à recevoir un message rassembleur qui vient des artistes pour créer une forme de rapprochement pour éviter finalement la polarisation puis la distance qu'il peut y avoir entre les personnes qui sont moins bien comprises et le grand public.
Là, je suis curieux, j'aimerais un petit peu avoir une idée là, de quoi ça a l'air. Mettons que je me présente là, ce week-end, qu'est-ce que je vais expérimenter? Qu'est-ce que je vais voir? Sans dévoiler tous les punchs, là.
En fait, ce qu'on va voir, c'est voir un gros « je t'aime ».
Ah, ça, j'aime ça.
Ce qu'on va voir, c'est, tu sais, quand, par exemple, il y a beaucoup d'angles dans l'itinérance. Fait que là, il y a des chansons qui représentent tout ce système tentaculaire-là qui peut être les liens avec l'enfance, certaines difficultés, les liens avec la toxicomanie, les liens avec la maladie mentale. T'sais, on a un paquet de chansons qui traitent de ça, mais on a du fun, là. On a Corias qui nous balance une toune qui rentre au poste. C'est carrément, c'est vraiment... C'est touchant, ça brasse, ça se passe. C'est un spectacle. Fait que, tout d'un coup, on s'ouvre le cœur avec une chanson de Linda Lemay, de Corias, de Stéphane Archambault, de Pierre Le Coyote, de Guylaine Tanguay. Puis après ça, on a un témoignage, une petite capsule où quelqu'un en situation de rue nous explique un petit bout de sa vie, soit quelque chose qui nous aide à comprendre la situation, parce qu'on le sait que la compréhension, c'est la base du rapprochement.
Ah oui.
Donc là, après ça, on oscille d'une chanson à l'autre avec un témoignage de façon fluide, avec Stéphane Archambault qui va nous lire un poème qui a été écrit par quelqu'un de la rue. L'idée, c'est de valoriser les gens qui sont en situation de difficulté, qu'ils soient là dans la salle à se voir au grand écran, à se voir à l'honneur, à se voir à travers des artistes qui essayent de les comprendre puis qui essayent de les expliquer et recevoir un « je m'engage à te regarder dans les yeux, je ne vais plus t'éviter du regard, j'accepte que tu sois là, j'ai envie de vivre avec toi, puis ce « je t'aime-là » va faire que tu vas réussir à faire un pas de plus vers l'avant parce que tu vas te sentir accueilli, parce que la dignité va te réussir à t'amener là. »
C'est important, là, ce mot-là, dignité, puis je pense que ça fait partie vraiment de la démarche derrière ce projet.
Ah oui, complètement, parce que, tu sais, quelqu'un, parce qu'on ne sait pas comment agir dans cette situation-là, si on passe à côté de quelqu'un et qu'on ne le regarde pas, on lui dit « tu ne fais pas partie de ma vie ».
T'existes pas.
En plus, ouais. Tu ne fais pas partie de ma société. Mm-hmm. Fait que là, si un travailleur de rue va voir cette personne-là pour lui dire « as-tu besoin d'aide, tu sais, je pourrais trouver un appartement, puis tout », il va dire « ta société va chier, elle ne regarde pas ta société mm-hmm. ». Fait que, tu sais, excuse-moi, j'ai été vulgaire, hein, j'ai pas le droit de faire ça,
non. Non, écoute, tant que c'est pas moi qui le fais, il n'y a pas de problème.
Mais c'est quand même ça, tu sais. Puis ouais. C'est dur. C'est des gens qui l'ont dur. Fait que tout d'un coup, un petit bonjour. Fait que l'année passée, nous, on a eu des résultats majeurs. Là, tu me diras si je me répète avec ce que j'ai dit la semaine dernière, je viens un peu confus.
Ouais.
Mais dans le spectacle l'année dernière, il y avait des gens en situation de rue qui nous ont fait des témoignages, puis ils venaient me voir après. C'est des gens que je vois, puis avec qui je garde contact maintenant, puis qui vont mieux, tu sais, qui m'écrivent, genre, j'ai pas recommencé à consommer, ça va mieux, j'ai mon appartement, je vois mes enfants, tu sais. C'est vraiment touchant. On voit vraiment quelque chose qui s'agrandit à ce niveau-là. Puis, à savoir que là, tout d'un coup, on a fait pour le spectacle des mélanges improbables, tu sais, comme un duo entre Corias et Guylaine Tanguay. C'était pas prévu, ça, dans le showbiz au mm-hmm. Québec. Là.
Ouais.
Puis c'est touchant, c'est frissonnant. On fait plein d'échanges. On a réarrangé des pièces de Pierre Le Coyote. On a Stéphane Archambault là, qui vient sortir son nouvel album, son grand retour après Mes aïeux, tu sais. Il vient de déposer des affaires. Il y a Linda Lemay qui a, mon Dieu, c'est extraordinaire. On l'a invité, puis une semaine après, on avait un courriel. J'ai écrit une chanson pour l'occasion. Tu sais.
Ah, wow! Puis quand on connaît le style de Linda Lemay, hein, elle rentre direct... moi aussi, je parle drôle aujourd'hui. Directement au cœur, je ne t'ai pas dit direct au cœur.
Ouais, direct au cœur. Tu sais, puis elle est allée direct là. Puis sa chanson, c'est un coup de pelle dans la face. Tu sais.
Ah oui, non, elle a vraiment un style incroyable. Quand on écoute c'est la poésie de ses chansons, c'est extraordinaire, oui.
Vraiment. Puis elle a une chanson qui nous explique une situation tout en nous portant dans un narratif super touchant. C'est extraordinaire. Puis en plus, elle me confiait lors d'une réunion qu'elle était en train d'entrevoir la possibilité de faire un album éventuellement complet autour de, pas nécessairement d'itinérance, mais de toutes les formes de grande vulnérabilité puis d'incompréhension sociale. C'est extraordinaire. Tu sais, puis je me donne zéro le crédit de tout ça, mais si une invitation génère l'envie de faire une chanson, qui va après ça ouvrir l'esprit de tout son public. Puis l'an dernier, tous les artistes qui étaient là au spectacle me disaient, Jeannot, OK, je vais m'impliquer plus maintenant.
Ouais.
Mais les dirigeants sortaient du spectacle en disant, je verrai plus les choses de la même façon. Les gens, le public m'arrêtait dans la rue en disant, Jeannot, j'ai compris, je regarde dans les yeux maintenant, puis je dis bonjour quand j'ai pas d'argent.
Tout à fait. Puis je rappelle quand même que la semaine dernière, on a parlé que tu avais eu certains ennuis de consommation qui auraient pu même t'amener à la rue. Et c'est un peu ce qui a motivé en partie ta démarche artistique cette fois-ci. Dans ce projet-là. J'aimerais revenir sur le thème « Lever des liens » cette année.
Oui. En fait, ça a amené beaucoup de questionnements parce que l'an dernier, il y a des gens qui disaient, est-ce que c'est une levée de fonds? Parce que les gens associent ça à une levée de fonds directement. Tu sais.
Ouais.
Une levée de fonds, souvent, moi, quand j'étais jeune, je jouais de la musique dans des levées de fonds. Puis, c'était plein de gens qui ont beaucoup d'argent, qui réservent une table, qui donnent de l'argent à une cause. C'est vraiment noble parce que ça fait un gros budget à des organismes pour aider une dite cause. Puis là, en discutant avec certains organismes, la chose que moi, je pouvais faire, c'était travailler en inclusion sociale. Parce que présentement, au Québec, une personne qui est en train de mourir dans la rue coûte 70 000 $ par année à l'État.
Tout de même.
En service, parce que l'hiver, elle a trop froid, fait qu'elle fait un petit délit pour se faire emprisonner, pour se réchauffer, pour pas mourir, ou l'ambulance, ou l'organisme ici et là. Fait que ça finit par coûter 70 000 à l'État, laisser mourir quelqu'un dans la rue. Ça, 70 000, c'est le salaire de quelqu'un qui paye d'impôts. Fait que, mettons, on regarde ça froidement, il y a ça. Puis après ça, cette personne-là continue à avoir une vie difficile. Mais là, nous, mettons, puis cause noble, les gens qui travaillent en urgence sociale, merci. On vous rend hommage au spectacle. Le spectacle est là pour vous rendre hommage, pour vous dire merci d'être là. Et maintenant, le spectacle sert aussi à les gens qui sont en train de se relever, qui sont sur le point de se relever, à les aider à donner la dignité puis à se relever. Fait que c'est une levée de liens. Si on réussit à ramasser de l'argent, ça s'en va directement aux organismes. Mais à date, on regarde pour un déficit, puis c'est bien le fun de même. Parce que le vrai gain, c'est d'avoir 500 personnes en recherche de dignité dans la salle. Parce que finalement, l'argent, on la dépense à mesure.
Ouais.
En invitant des gens, en créant un accueil pour eux autres, une soirée VIP pour les sans-abri.
C'est vraiment intéressant et différent comme approche. Il nous reste quelques minutes. J'aimerais qu'on annonce donc ça se passe où et on peut participer comment?
Le 24 août, c'est dans quelques jours seulement, ouais. À l'amphithéâtre Cogeco à Trois-Rivières. C'est un espace magnifique pour voir les spectacles en Mauricie. Ça vaut la peine de se déplacer. Guylaine Tanguay, Linda Lemay, Tire le Coyote, Corias, Stéphane Archambault et moi-même qui va vous grincer quelques chansons et quelques poèmes. Pour acheter des billets, c'est sur le site de l'amphithéâtre Cogeco à Trois-Rivières. Vous pouvez aller parfouiller dans nos réseaux sociaux sur la page web pour trouver les liens. Qu'est-ce que je pourrais vous dire aussi? Ah oui, on a un forfait 2 pour 1, un forfait 1 pour 2. C'est que il y a souvent des 2 pour 1, tu sais, parce que les mondes aiment ça, les choses en spécial. Fait que nous autres, on a relevé le défi du spécial encore plus loin. C'est que c'est un 1 pour 2, peux payer deux fois plus cher, ça donne un billet de plus à quelqu'un en situation de rue.
C'est très original. Jeannou Bournival, merci beaucoup d'avoir été avec nous encore cette semaine et d'avoir pris le temps de nous parler de tout ça. C'est une cause noble et on est très content d'en entendre parler. Et puis à très bientôt.
Bien, merci à toi et on se reparle bientôt le plus vite possible.
Certainement. Belle météo, du soleil presque partout au Québec, sauf dans l'Est où on pourrait voir des nuages et des averses peut-être, et des maximums qui oscillent autour de 25 degrés à Montréal et plutôt 19 degrés dans l'Est de la province. Province atlantique, c'est du soleil partout, des maximums autour de 20 à 24 degrés. C'est plutôt 19 à Terre-Neuve et Labrador. Attention, il y a un avis d'onde de tempête sur les côtes avec l'ouragan Erin qui se promène. Puis il y a aussi des avis de qualité de l'air, notamment à Terre-Neuve avec les feux de forêt. Dans l'ouest, c'est généralement ensoleillé presque partout, sauf à Edmonton. Et puis, il n'y a surtout pas d'humidex. Même chose en Colombie-Britannique. Et puis, il y a des avis de temps violent dans le nord de l'Alberta. Après la pause, Parasport, puis on va parler de Papa, une nouvelle série sur TV5 Uni.
Vous écoutez Au quotidien avec Denis Martin Chabot.
Il était une fois des gens heureux, c'était en des temps plus silencieux. Parlez à ceux qui s'en souviennent, ils savent encore les mots des romances anciennes où ça disait toujours le monde est bon. Il était une fois des gens heureux qui disaient toutes choses avec les yeux, leurs yeux tout pleins de confiance en l'univers immense qu'il disait béni de Dieu. Il était une fois des gens de paix, mais vers les années de vent mauvais, à table il y eut des chaises vides, aux yeux vers les rides, il ne resta plus rien de vrai. Il ne faut pas chercher savoir où s'en va le temps, il s'en va pareil aux glaces dans le Saint-Laurent. On fait toute la vie semblant qu'on va durer toujours, pareil au fleuve dans son cours. Et c'est peut-être rien que pour ça qu'on fait des enfants. Il était une fois des gens avec les yeux, leurs yeux tout pleins de confiance en l'univers immense, éclair, injuste et merveilleux, un univers béni de Dieu. Il était une fois des gens heureux, c'était en étant plus silencieux. Parlez à ceux qui s'en souviennent, ils savent encore les mots des romances anciennes où ça disait toujours le monde.
Nicole Martin, il était une fois des gens heureux.
Oui, la chanson thème du film Les Ploufs, pour ceux qui s'en rappellent. Nicole Martin, quelle voix incroyable et qui nous a quittés tout récemment, fait qu'il y a quelques années. Donc, une grosse perte. Mais bon, voilà, c'est le temps de parler de sport maintenant, de parasport. On va rejoindre Dominique Tremblay, qui est de retour à la maison. Dominique, comment ça s'est passé, le retour du Brésil?
Ah, ça s'est bien passé grâce au comité organisateur. Mon vol originalement était avec Air Canada, mais dès que la grève a été connue, le comité organisateur m'a acheté des billets pour pas qu'ils passaient par un autre pays. Donc, j'ai passé par Bogota au lieu de me rendre directement à Montréal. Donc, c'est Brésil, Bogota, Montréal. Parti une journée plus tôt que j'étais supposé, mais arrivé une douzaine d'heures plus tôt à Montréal.
Ouais.
Donc, ça s'est bien tourné pour moi, là. Mais il y a plein d'athlètes qui travaillent, qui voyagent à travers le monde présentement, parasport ou en sport régulier, qui doivent se creuser la tête pour savoir comment se rendre ou retourner à se rendre à leur compétition ou retourner à la maison. Là. Donc, ça, c'est des gros casse-têtes pour les fédérations nationales.
Ouais, sans vouloir trop prolonger ça, c'est clair que quand on est dérouté ou laissé de côté pour quelques jours, c'est peut-être plus compliqué quand on a une situation de handicap qui requiert des accommodements spéciaux. Ça commence à être pas mal difficile pour les gens, ça.
Oui, puis surtout, donc, par exemple, l'équipe de Boccia devait revenir lundi avec un vol d'Air Canada, mais ont été pris à Sao Paulo une journée. On a dû rester à un hôtel, transport de l'aéroport jusqu'à l'hôtel, retourne à l'aéroport le lendemain, trouver un vol qui est pas par Air Canada. Donc, c'est des casse-têtes là, qui met beaucoup de pression là, et de stress sur les athlètes. Donc, je les félicite là, pour les fédérations nationales et aussi tous les gens qui encadrent les athlètes canadiens pour leur bon travail. Là, ils sont débrouillés quand même assez bien.
Alors, allons-y. Donc, la semaine dernière, on a parlé de l'équipe féminine canadienne de basketball en fauteuil roulant qui participait au championnat des Amériques. Comment la compétition s'est terminée pour elle?
Donc, pour les femmes, ils ont gagné la médaille de bronze contre l'Argentine dans une victoire de 63-51. Erin Young a été nommée sur l'équipe d'étoiles, a été la meilleure marqueuse de l'équipe canadienne. Il y a aussi Élodie Tessier de Drummondville qui s'est très bien illustrée lors de cette compétition. Je vous rappelle que les championnats du monde auront lieu à Ottawa en 2026 au mois de septembre. Donc, c'était plus un événement qui permettait au Canada de s'entraîner ou de se pratiquer dans des matchs importants, mais il n'y avait pas de fin de qualification lors de cette compétition. Les deux premières équipes des Amériques, les États-Unis et la Colombie, se sont qualifiées directement pour la compétition féminine du championnat du monde.
Bon, il y a la compétition masculine qui suivait tout de suite après.
Oui, c'est ça. Et la compétition s'est terminée hier. Les États-Unis ont gagné la médaille d'or, comme chez les femmes. Les Canadiens jouaient pour la médaille de bronze. Ils menaient au début du quatrième quart 35-30 avec 12 minutes à jouer. La Colombie, qui était l'équipe hôte, a toutefois puisé de l'énergie par rapport chez les spectateurs pour revenir dans la derrière et ont gagné le match 48-47. Deux lancers francs là, réussis avec moins de 5 secondes à faire a scellé vraiment l'issue du match. Le Canada a terminé avec un lancer de 3 points réussi, mais c'était sur le buzzer, donc il n'y a pas d'autre moyen pour le Canada de revenir de l'arrière. Quand même un très bon match. Encore une fois, le Canada est automatiquement qualifié pour les championnats du monde, donc c'est encore une fois une très bonne pratique et on espère que le Canada va s'illustrer à la maison lors des championnats du monde de l'année prochaine.
Et là, on va parler du premier championnat du monde de para-hockey féminin qui débute dans 5 jours en Slovaquie.
Oui, c'est ça. La compétition aura lieu du 26 au 31 août à Dolní Kurben en Slovaquie. Il y aura 6 équipes qui seront représentées. On parle des États-Unis, évidemment du Canada, de la Grande-Bretagne, de l'Australie et d'une équipe qui représente plusieurs femmes de divers pays, soit en Europe et en Asie. C'est un tournoi, c'est la première fois que les championnats du monde existent. Au cours des dernières années, il y avait eu un challenge international qui s'était déroulé aux États-Unis pour faire la promotion du para-hockey féminin. Et les États-Unis et le Canada s'étaient affrontés en finale lors de ces trois challenges de compétition. On espère encore pour le championnat du monde dans 5 jours que le Canada va se rendre jusqu'en finale contre les Américaines. On espère que pour une des premières fois, le Canada va battre les États-Unis pour la médaille d'or. Le but ultime de toutes ces femmes, c'est de se retrouver aux Jeux paralympiques d'hiver de 2030, donc après les Jeux paralympiques de Milan qui vont avoir lieu l'hiver prochain. C'est un gros objectif pour les femmes. Ça fait plusieurs années qu'on travaille pour que le sport féminin de para-hockey soit accepté aux Jeux paralympiques. Des athlètes comme Raphaël Tousignan se sont illustrés là, sur la scène internationale. Raphaël Tousignan était la première femme à faire partie de l'équipe masculine lors des championnats du monde. Elle espère pouvoir participer aux Jeux paralympiques avec l'équipe masculine et tirer profit de cette expérience-là pour la compétition de 2030. On se croise les doigts pour que tout le monde réussisse à s'illustrer et puis qu'on puisse voir les meilleures joueuses de para-hockey s'illustrer sur la glace paralympique en 2030.
Et on va parler de 4 Canadiens qui participent au championnat du monde de para-canoë-kayak.
Oui, c'est ça. La compétition se déroule à Milan présentement. Il y a 4 athlètes, dont Mathieu Saint-Pierre de Shawinigan qui est à sa 4e participation au championnat du monde de para-canoë. Il participe dans la catégorie C2, là, c'est une classification avec un type de bateau avec une bouée sur le côté, un peu comme un genre de canot hawaïen. Et sa première compétition avait lieu hier. C'était la première ronde des qualifications. Il a terminé 5e de sa course. Il a pu directement se qualifier pour les demi-finales qui vont avoir lieu vendredi et la finale qui va regrouper là, les 9 meilleurs canoïstes va avoir lieu samedi. On espère que Mathieu va pouvoir s'illustrer et offrir une bonne performance. Ça fait plusieurs années là, qu'il pratique le para-canoë et on lui souhaite bonne chance.
On va terminer avec Jimmy Pelletier qui continue son périple autour du monde à vélo à main.
Oui, c'est ça. Jimmy Pelletier est un ancien athlète paralympique des Jeux de Turin en 2006 en ski de fond. Il a été aussi membre de l'équipe nationale de paracyclisme. C'est un athlète qui se lance beaucoup de défis pour ramasser de l'argent pour le centre Adaptavie là, de réadaptation à Québec. Donc, il est parti pour un tour du monde en juin 2025. Ça va durer 2 ans et il va parcourir donc 5 continents, 24 pays, plus de 40 000 kilomètres et 24 mois et 27 pays. Pardon, je me suis mêlé dans mes chiffres. Et là, présentement, il se retrouve dans cette 2e étape qui va se terminer le 25 août. Il est présentement en Angleterre et en Irlande. Hier, il a terminé un périple de 100 km qui l'a amené proche de Oxford en Angleterre. Et la prochaine étape va débuter le 30 août, pardon, et va partir de Rome en Italie et se rendre jusqu'en Espagne. C'est un gros périple. C'est le 2e athlète canadien qui part sur un périple autour du monde. Je vous rappelle que Rick Hansen avait fait la même chose, mais cette fois-ci, en fauteuil de course, il avait fait ça le tour du monde dans les années 80 pour lancer sa fondation, la fondation Rick Hansen, qui est très importante là, au Canada et qui est basée en Colombie-Britannique. On souhaite bonne chance pour les 13 étapes que Jimmy veut parcourir et ça va se terminer en juin 2027. Donc, on pourra en reparler un peu plus tard.
Ben, merci beaucoup, Dominique.
Ça fait plaisir. Passez une bonne journée.
À la prochaine.
Votre fille a 20 ans, que le temps passe vite. Madame Ire encore, elle était si petite. Et ses premiers tourments sont vos premières rites, madame. Et vos premiers soucis. Chacun de ses 20 ans, pour vous à compter double, vous connaissez déjà tout ce qu'elle découvre. Vous avez oublié les choses qui la troublent, madame, et vous troublez aussi. On la trouvait jolie, et voici qu'elle est belle pour un individu presque aussi jeune qu'elle. Un garçon qui ressemble à celui pour lequel, madame, vous aviez embelli. Ils se font un jardin d'un coin de mauvaise herbe, nouant la fleur de l'âge en un bouquet superbe. Il y a bien longtemps qu'on vous a mis en gerbe, madame. Le printemps vous oublie. Chaque nuit qui vous semble à chaque nuit semblable, pendant que vous rêvez vos rêves raisonnables de plaisir et d'amour, ils se rendent coupables, madame, au creux d'une même lit. Mais coupable jamais n'ont eu tant d'innocence, aussi peu de regrets et tant d'insouciance, qu'ils ne demandent même pas votre indulgence, madame, pour leur tendre délit. Jusqu'au jour où peut-être à la première larme, à la première peine d'amour et de femme, il ne tiendra qu'à vous de sourire, madame, madame, pour qu'elle vous sourie, pour qu'elle vous sourie.
Et on écoutait Serge Reggiani, votre fille à 20 ans.
Alors, vous comprenez pourquoi j'aime le jeudi nostalgie? C'est pour découvrir ou redécouvrir pour ceux de mon âge et découvrir pour ceux d'un âge plus jeune ces belles poésies qui sont toujours aussi belles et d'actualité. Une nouvelle série télé qui s'intitule Papa sera bientôt diffusée sur TV5 Uni et TV5 Monde. Cette comédie dramatique aborde avec finesse et humour le désir de parentalité chez un homme gay. Nous accueillons donc le comédien, scénariste et idéateur Kevin Sauvageau et la réalisatrice, scénariste et idéatrice Fanny Lefort. Bienvenue à tous les deux.
Allô?
Allô?
Oui, je sais qu'on est dans une situation un peu compliquée. Vous êtes tous les deux sur le même téléphone cellulaire, mais ça semble fonctionner. J'ai visionné hier 2 des épisodes. Le 3e lien ne fonctionnait pas, mais déjà, j'avais une bonne idée de ce qui se passait. Commençons par l'idée originale de cette série. Kevin, la série Papa, ça explore le parcours d'un trentenaire gay qui désire devenir père. D'où est venue l'envie de raconter cette histoire?
Ben, c'est ça, c'est une question que je me suis moi-même posée. J'avais à peu près 33 ans à l'époque, puis je me suis demandé si j'avais envie d'avoir des enfants. Puis après ça, tout de suite, la question qui est montée, c'est « OK, mais comment je fais? » Je savais pas si c'était légal, j'ai-tu le droit, combien ça va me coûter. Je me suis rendu compte que j'avais aucune information, fait que je me suis dit « Si moi-même, un homosexuel dans la trentaine n'est pas au courant de ses options », je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont pas au courant de ce sujet-là. Fait que je me suis dit, je pense qu'on tient quelque chose.
Le sujet là, de l'homoparentalité, plus précisément la quête de paternité chez les hommes célibataires, c'est très peu exploré en télévision. Alors, c'est important de mettre en lumière cette réalité parce que on l'a vu là, dès le 2e épisode, je crois qu'on parle de plusieurs milliers, de dizaines de milliers, pas dire presque centaines de milliers de dollars pour pouvoir avoir un enfant.
Oui, ben différent, ben dépendant là de l'option qu'on choisit, tu sais, on peut toujours passer par la DPJ à travers la banque mixte ou la banque régulière. Ça, c'est des options qui sont gratuites, mais ça peut prendre 5 ans avec la banque mixte, ça peut prendre 10 ans avec la banque régulière. Fait que là, ça, c'est, il faut se projeter très loin, là. Après ça, on a l'option de faire appel à une femme porteuse. Puis c'est sûr que, bon, on n'a pas le droit au Québec de rémunérer une femme porteuse, mais il faut payer quand même plusieurs frais. Puis ça peut s'élever entre 50 et 100 000 $ là, pour un premier enfant. Fait que c'est sûr qu'il faut avoir accès à des fonds là, pour ça. Ouais. Puis souvent, ben on n'a pas ça, tu sais.
Ça devient un privilège hein, pour accessible par certains et pas tous. Ouais. Fanny, vous avez signé la réalisation de la série. Là, comment s'est déroulée cette collaboration avec Kevin de l'idée originale au scénario puis à la mise en scène ou la mise en... La réalisation, je réserve la mise en scène, c'est pas vraiment ça. Ouais.
En fait, j'ai rencontré Kevin il y a 6 ans. C'était dans un atelier de direction d'acteurs avec des réalisateurs, chapeauté par Robert Favreau. Et bon, il y avait 32 comédiens qu'on dirigeait qui étaient là. Et quand Kevin est arrivé, j'ai fait « C'est qui cet acteur-là? » J'ai trouvé son talent incroyable et je me suis dit « Je ne peux pas croire que je ne l'ai jamais vu au grand écran. » Donc, bien vite, j'ai eu envie de travailler avec lui. On est devenus amis aussi très, 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 très rapidement. J'ai trouvé qu'il y avait une belle plume. Moi, je suis scénariste, donc je lui ai dit, si jamais tu as une idée, on pourrait coécrire quelque chose ensemble dans lequel tu pourrais jouer. Et je croyais en lui fortement. Et puis, même si c'est son idée originale, il a quand même fallu se battre pour qu'il ait le rôle, de trouver des producteurs qui acceptent que, même si ce n'est pas une vedette, il tient le rôle principal, alors que c'est la meilleure personne pour jouer un personnage fortement inspiré de lui, là, faut le dire. Et donc, l'expérience, c'est... déroulé tellement bien. J'étais tellement fière de présenter ce talent-là à tout le monde, à toute l'équipe. Puis on est des grands amis dans la vie aussi, donc ça a été un privilège d'écrire avec lui, d'exploiter ce sujet-là tellement riche, de tourner la série. Parce que ça fait quand même 4 ans qu'on travaille là-dessus. Il y en a eu des embûches, des épreuves et tout. Donc là, je suis très, très fière, puis je suis très contente aussi d'avoir ce nouveau visage à l'écran qui est rempli de talent.
Ben justement, c'est vrai que le genre d'embûche que vous avez auquel vous avez fait face là, pour produire cette série-là depuis 4 ans?
Oh mon Dieu, écoute...
À part le financement, c'est toujours une embûche importante, là.
Oui, ben, tu sais, on a eu la chance là, de participer au rendez-vous pro. C'est un événement pendant les rendez-vous du cinéma québécois. C'était comme un speed dating en fait entre des créateurs prometteurs et des producteurs. Fait que c'est un speed dating. On rencontrait 12 producteurs en rafale. On vendait notre idée. Puis ben, on a gagné meilleur pitch à ce moment-là. Puis ça nous a mis en contact avec une série de producteurs qui étaient intéressés par le projet. On a choisi les producteurs qui avaient envie de travailler avec nous, puis qui aussi me promettaient en fait de pouvoir jouer ce personnage-là. Puis à partir de là, ben on a été en relation avec UniTV aussi, qui est le diffuseur. Puis ben écoutez, on est parti en développement, on a fait un pilote, on a écrit des épisodes. Mais suite à ça, on a quand même attendu 1 an avant d'avoir des subventions. Finalement, on n'a pas été subventionné, mais le diffuseur a quand même choisi de nous financer. Puis c'est ça, on est parti avec ces moyens-là qui étaient pas énormes, puis on a créé un petit objet créatif intéressant au final, avec des contraintes, mais c'est ça, on a réussi à pondre un projet qui est vraiment intéressant puis qui est charmant, je pense.
En novembre, quand on a eu le go, il a fallu repenser notre histoire justement selon nos moyens, la réécrire pour qu'elle puisse se tourner en seulement 2 lieux, mais selon moi, ça juste aider la série parce que ça fait que c'est ce petit objet-là bien particulier puis ça nous a juste aidé à être encore plus créatifs.
2 lieux. C'est vraiment étonnant parce que moi j'ai vu les deux premiers épisodes, j'avais l'impression que ça se passait partout. C'est bien fait votre jeu, hein, votre travail, c'est clair. Le personnage principal, Eric, donc, incarne cette espèce de mélange de vulnérabilité et de détermination. À moi, la scène où il les rencontre, je ne vais pas faire de divulgachage, mais il y a une scène où il les rencontre plusieurs personnes, hein, une après l'autre, je pense dans le deuxième épisode. Et puis on voit ce qu'il veut, puis en même temps la vulnérabilité du personnage. Comment tu as abordé ton rôle, Kevin, même si c'est un peu ton histoire que tu racontes? Il faut quand même aborder ça comme un rôle aussi, là.
Oui, ben Écoutez, moi, je l'ai vraiment abordé. Je suis allé voir directement dans mon expérience personnelle. Tu sais, je suis parti de la case zéro où est-ce que je me suis posé des questions, puis je savais pas comment faire ça. Puis personnellement, moi, pour ce personnage-là, on s'est dit, ben, il veut un enfant, mais il veut aussi créer une famille.
Oui.
Tu sais. Fait que lui, dans son optique, c'est de créer une famille, c'est de se trouver un partenaire pour ça. Tu sais, comme d'emblée, son chum veut pas d'enfant. Fait que il est tellement décidé qu'il laisse son chum puis part à la découverte. Et en fait, il s'en va chercher un nouveau chum qui va vouloir un papa. Tu sais, fait qu'il part sur les applications de rencontre, il essaie d'avoir un match. Fait que oui, il va en date, en rafale, pour essayer de se trouver un copapa. Puis ben ça se passe pas vraiment bien pour lui. C'est difficile de trouver quelqu'un qui cherche la même chose que lui. Fait qu'il a fallu qu'il fasse preuve de créativité là pour arriver à ses fins finalement là.
Ouais, ben, en tant que gay moi-même, je vais vous dire que sur Grindr, c'est vraiment pas l'endroit pour trouver un père pour son enfant. Mais bon, ça, c'est un autre paire de manches. Excusez-moi, il fallait que je la passe celle-là.
Effectivement, c'est pas l'endroit pour ça.
En fait, ce que je trouve intéressant, c'est que voici une comédie dramatique. Alors, on ne pleure pas du début à la fin. Pourtant, c'est quand même pas toujours très drôle, mais on rit aussi. Comment on réussit à jongler ça, surtout dans des épisodes de quoi, d'une 12-13 minutes, si je me trompe pas?
Oui. Ouais. Ben, tu sais, on a voulu représenter la vie. On s'est pas donné comme commande d'écrire une comédie ou un drame. On s'est dit, dans la vie, il y a des passes rough. Puis dans ces passes rough-là, des fois, on rit. Tu sais, des fois, nos amis sont là, puis on se regarde, puis on rit de nos malheurs. Mais c'est un peu ça qu'on voulait représenter. On voulait un ton qui se rapproche de la réalité. Puis c'est ça, donc inclure des moments qui sont plus dramatiques parce que sa quête, effectivement, c'est une quête viscérale, est importante pour lui, c'est sérieux, mais aussi des moments d'humour, des moments plus légers, des moments touchants, comme dans la vraie vie.
Ce n'est pas une période très, très facile pour les communautés de la diversité sexuelle, des pluralités des genres. C'est quand même... ça prend du courage pour présenter une émission comme ça, tant de la part des gens qui la produisent, mais du diffuseur?
Oui, ça prend beaucoup de courage, et d'autant plus que la série va être diffusée sur TV5 Monde, qui
oui.
est diffusée dans toute la francophonie. Donc, c'est sûr qu'à certains endroits, c'est quelque chose de traiter de ce sujet-là. Donc, j'admire vraiment le courage de notre diffuseur, là, Uni TV5, d'avoir embarqué là-dedans. Et jamais on a essayé de nous censurer. C'est ça qu'on se disait hier, hein? On n'a jamais dit, ben là, c'est parce que si on dit ça dans certains pays, non, on a vraiment pu s'exprimer librement. Donc, ben, j'ose espérer que ça va toucher puis inspirer plusieurs personnes à travers le monde.
Oui, puis j'ajouterais aussi qu'on n'a pas écrit nécessairement une série queer ou une série gay. Il s'avère que c'est un personnage homosexuel qui cherche à être papa, mais c'est une histoire vraiment personnelle qui traite d'un sujet universel. Des personnes qui se posent la question « Est-ce que je veux être parent? » Je veux dire, c'est partout sur la planète depuis toujours.
Oui.
C'est, t'as pas besoin d'être homosexuel, tu sais, c'est hétéro, homo, peu importe comment que tu te définis, peu importe la couleur de ta peau, peu importe la langue que tu parles, le pays d'où tu viens. Un humain arrive à un moment donné où il se pose cette question-là. Fait que c'est vraiment une thématique universelle.
Bien, Kevin Sauvageau et Fanny Lefort, je rappelle donc que l'émission, la série Papa sera disponible sur TV5 Uni et TV5 Monde à compter du 25 août. Merci beaucoup tous les deux.
Bien, merci à vous.
Merci Denis Martin.
Merci.
Bonne journée, bye-bye.
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 Ben oui, c'est la belle chanson Hélène de Rock Voisine. Pourquoi je fais ça chaque année quand je termine mon remplacement d'Hélène Denis pour lui dire qu'on s'est beaucoup ennuyé d'elle, qu'on a hâte à son retour lundi prochain. C'est vraiment, je vous dis, j'ai passé 6 semaines formidables avec vous tous. Et c'est vraiment un privilège monumental qu'on me prête un micro comme ça. J'en reviens pas à mon âge d'être encore pertinent, d'être encore là, d'avoir encore ce plaisir et ce bonheur de jouer ce rôle important dans la vie des personnes qui nous écoutent. Je suis vraiment, vraiment honoré de ça. Je le dis en toute humilité. Je voudrais remercier donc toute l'équipe de Canal M. Et en particulier, j'aimerais remercier Samuel Badel, j'aimerais remercier aussi Mathieu Tessier et Maurice Baudier qui ont assuré la régie pendant le temps que j'étais ici en onde. Et remercier aussi là, toute l'équipe, entre autres Jean-Sébastien Liberté, là, qui m'ont beaucoup soutenu pendant ces 6 semaines. Je m'appelle Denis-Martin Chabot. Je serai de retour en septembre pour l'animation, la présentation en fait de cette émission que j'anime habituellement, qui est l'heure où l'arc-en-ciel se lève. Et puis, ben, lundi, c'est Hélène qui revient.